Bonjour et bienvenue dans Toasty, Toasty numéro 73. Avec moi, vous allez retrouver Tibbs.
Hey, Toasty 73 de Toasty Balèze.
TMDJC.
Bon, là, j'ai rien à rajouter de plus, hein. Je valide. Bonjour tout le monde.
Salut TMDJC. Et qui c'est qu'on a d'autre? On a Wellcook, mais il n'est pas censé être là.
Si, je tiens juste à signaler que je suis seul à pas avoir des lunettes de soleil sur mon avatar. Je me sens exclu du groupe. Et là, je me suis fait exclure la semaine dernière.
Moi, je les ai rajoutés manuellement avec Paint quand j'ai vu leurs lunettes de soleil.
Non, mais j'ai trouvé un super avatar. Je vais m'en servir.
Bonne idée.
Avatar.
Donc, tout voilà. Cette semaine, on a des tas d'infos sur les jeux de baston, comme d'habitude, avec une nouvelle sortie, avec des infos sur Capcom, Netherrealm Studio, sur l'Abate, on dirait un label rouge, et sur un jeu Namco Bandai que vous devinerez peut-être. Vous avez également le journal du Hard, la rubrique de TMDJC qui arrive par la suite. Faudrait qu'on lui trouve un nom plutôt que la rubrique de TMDJC un jour.
Ouais, c'est un peu nul.
Ouais, mais bon, moi, les gens comprennent.
C'est Canon Spike à un moment donné, puis là, comme j'écume les dernières questions, on peut rester sur Canon Spike le temps qu'on valide autre chose.
Alors, le Canon Spike presque final, le temps qu'on valide autre chose. Et enfin, les tournois et les events à venir. Alors, on va commencer l'actualité par la sortie du moment, que je crois certains d'entre nous ont testé ou acheté.
Yep.
C'est bizarre. Bah vas-y, à toi l'honneur.
Eh ben oui, alors j'ai donc acheté, j'ai raqué mes 10 euros pour Yatagarasu. Yatagarasu qui est sorti donc sur PC cette semaine.
Sur PC dernière, en Europe.
En Europe, sur PC, la semaine dernière plutôt du coup. Donc pour l'équivalent de 10 euros. Alors, à la base, c'est un doujin qui a été édité par Ice pour la version européenne. Alors, il faut savoir que pour 10 euros, bah, vous avez un exécutable, un fichier PDF qui vous explique un petit peu le fonctionnement du jeu succinctement. Et surtout son menu qui est intégralement en japonais, donc il faut même se débrouiller. Surtout pour le mode online qui est vraiment à l'ancienne, le mode online où il faut rentrer son IP, si on est host, ou l'IP de la personne qu'on veut rejoindre, etc. etc. Le jeu lui-même... c'est plutôt sympa. Après, alors j'ai pas joué online pour pouvoir me faire une vraie idée de la profondeur du coup contre un adversaire humain. Maintenant, le jeu, alors c'est assez mitigé, c'est que il y a 8 personnages. Déjà sur les 8 personnages, il y en a 2 qui sont plus ou moins des palettes swap. T'as le Shoto de base qui est en version masculine et féminine, on va dire, avec les coups quasiment similaires et des petites variantes sur les furies, des choses comme ça. Et puis il y a un des personnages avec un sabre, je pourrais plus dire le nom, mais qui a son équivalent en fait en changeant juste les manips. Il y en a un qui est à charge, l'autre qui est à carte de cercle, mais les coups spéciaux sont vraiment très très proches l'un de l'autre. Et pour les décors, c'est la même chose. Alors, il y a des décors super jolis. Alors, tous les décors sont fixes et tout, donc bon, c'est un petit peu vide, c'est un petit peu bizarre, mais t'as une bonne partie des décors qui sont quand même vachement vachement travaillés et jolis. Et puis t'as l'autre moitié qui est à moitié, enfin c'est à moitié abstrait, c'est pas super beau. On sent que le jeu il a été un petit peu complété un peu à l'arrache comme ça, histoire d'avoir un peu de contenu pour le sortir en version payante. Mais sinon, au niveau du gameplay, bah, ça ressemble vachement à KOF dans le feeling. Donc c'est vachement vif, t'as des super jumps, les super jumps qui sont assez drôles, c'est qu'ils sont vachement bas, donc c'est vraiment offensif. Mais dans le gameplay, c'est très très proche de KOF, et il y a des cancels, des super cancels, tu peux faire des de confirm assez facilement et tout ça. Pas mal de cross-up un peu ambigu et tout, donc c'est plutôt vif. Et par contre, le petite variation de gameplay par rapport à KOF, c'est qu'il y a des paris. Donc des paris hauts, des paris bas qui seront assignés à un bouton. Alors c'est assez perturbant au départ, surtout quand on connaît pas le jeu, forcément on connaît pas les frame data, on connaît pas les carottes, on connaît pas les trucs, donc pour faire des paris c'est un petit peu au pif. Mais c'est agréable. En tout cas, pour 10 euros, si vous avez quelqu'un avec qui vous avez l'occasion de jouer en local régulièrement, tout ça, je le conseille plutôt, puisque l'ambiance sonore est vachement chouette. On sent qu'il y a quand même des gens derrière qui ont bossé sur des coffres, des choses comme ça. Donc au niveau gameplay, c'est plutôt chouette. Puis bon, bah pour le prix, je pense vous pouvez vous l'essayer, ne serait-ce que pour jouer avec des potes. Alors le mode online, j'ai pas testé, je devrais le faire d'ici peu pour vous en parler, mais a priori, c'est pas super super fameux.
C'est une catastrophe, hein, moi les retours que j'ai vus, c'est une catastrophe, c'est pire que le online de KOF 13 ou même de KOF 12.
Ah oui, donc effectivement. Bah, je testerai quand même,
histoire de voir. Ça ralentit, le jeu ralentit et fait tout ralenti dès que... dès qu'il y a un pet de lag. Donc ça,
ouais, donc en fait, de toute façon, c'est un jeu qui est prévu pour les Japonais. Donc à mon avis, le netcode a été basé sur le fait que leur connexion est souvent, ils jouent avec la fibre ou des connexions équivalentes.
Excuse-moi si je me trompe, mais je crois que dans la version japonaise, il n'y avait pas de mode en ligne.
Voilà, ça a été rajouté pour cette version, il me semble.
Bah, pourtant, le menu du mode online est bien tout en jap, donc ça me paraît quand même bizarre.
Ouais, bon, voilà, d'un côté, ils ont demandé à coder un truc en jap au jap, c'est tout.
Juste sinon, un dernier truc au niveau graphisme. Par contre, soit vous jouez dans une fenêtre minuscule, mais quand je dis minuscule, c'est vraiment minuscule, ça doit être même... Je crois que c'est du 640 sur 480, un truc comme ça.
Ouais, c'est peut-être même moins si c'est une résolution équivalente.
Peut-être moins, ouais, je pense. Ah. Ou en plein écran. Il n'y a pas d'intermédiaire, vous ne pouvez pas redimensionner la fenêtre. Et du coup, en plein écran, bah, c'est hyper pixelisé. Et en petite fenêtre, bah, c'est tout petit. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et pareil, il y a un espèce de patch. Si jamais vous avez un problème pour jouer avec votre stick Xbox, il y a un espèce de fixe inclus dans le jeu. Permet de jouer avec, parce qu'au début j'avais lancé le jeu, mon perso sautait, avançait, enfin il faisait n'importe quoi tout seul, sans que je lui demande rien, et bon, ça a été rajouté quand même dedans, dans le dossier du jeu, donc...
Parce que c'était de la triche, il jouait mieux que toi, c'est ça?
T'as mis combien de temps à te rendre compte que tu ne contrôlais pas ton personnage?
Bah, dès que ça fait fight, mon perso faisait n'importe quoi, donc voilà. Mais par contre dans les menus ça marche bien, donc c'est assez particulier. Enfin voilà, donc, je vous invite quand même à le tester, puisque ça reste 10 euros. Alors 10 euros, pour certains, c'est un budget, mais je pense que, vu le degré de... Je pense qu'en jouant avec quelqu'un régulièrement ou avec d'autres personnes, c'est quand même assez riche. Au niveau des combos, tout ça, des juggles qui est possible, des quelques petits juggles possibles, il y a des couvex et tout, c'est assez sympa à jouer. En tout cas, la prise en main est vraiment agréable.
Donc, tu nous conseilles de le prendre sur PC ou d'attendre la version 3DS ?
Je pense que l'écran de la 3DS va bien se prêter du coup au graphisme vu la résolution, mais bon, après sur PC vous jouez avec votre stick, hein, sur 3DS vous n'aurez pas d'autre choix que de jouer avec le pad.
Ouais.
Voilà.
Ok.
Voilà.
C'était bien.
Tu nous laisses sans voix.
On va passer sur Capcom maintenant, les informations. Alors d'abord une petite info corporelle qui va peut-être vous faire plaisir ou alors vous s'en foutez complètement comme nous. Yoshino Ono est désormais cadre chez Capcom. Cadre dirigeant.
Yoshinori, son prénom complet.
Yoshinori, d'accord. Vraiment. Tout le monde dit Ono, le mec avec Blanca sur Twitter.
Ouais, bah juste pour dire que déjà on sait pas en quoi ça va consister, à part qu'il garde son poste de travail d'avant, et juste à priori ça lui donnera une délégation d'autorité ou une dérogation pour prendre certaines décisions qu'il ne pouvait pas prendre avant au nom de Capcom. Voilà.
Une renégociation qui a été notamment mise en place parce que Ono, de par ses dernières déclarations, sous-entendait que éventuellement son travail pouvait l'amener à quitter Capcom pour aller voir ailleurs. Je pense que Capcom est très content d'avoir Ono pour l'instant dans
son giron.
Donc c'est un, on va dire que d'un commun accord, voilà, il reste chez Capcom et il a un petit peu plus de pouvoir et a priori une augmentation de salaire conséquente.
Bah, pour changer de fonction comme ça, normalement voilà. Ça va avec.
Ceci dit, moi je suis très étonné qu'il ne soit devenu cadre que maintenant, parce que enfin ça fait je sais pas combien d'années qu'il est chez Capcom maintenant et le travail qu'il faisait allait complètement dans le sens d'autres. Enfin voilà, je m'attendais à ce que ça se fasse plus vite en fait, et je pense que certainement lui aussi.
Après on ne sait pas comment ils sont organisés hein, chez Capcom.
Non, voilà. Bien sûr que non. Ça, on n'est pas partie des meubles internes.
Et l'évolution hiérarchique au Japon dans les sociétés, c'est quand même quelque chose de vachement plus politique qu'autre chose.
Bah, c'en est une preuve là encore. Hein.
Alors, on va parler des jeux maintenant parce que bon, les cadres et tout ce qui concerne la bourse, on s'en fout. Alors il y a des patchs de prévus pour certains jeux Capcom, des jeux de combat. Est-ce que tu peux nous en parler, TMDJC, puisque tu étais bien parti?
Qu'est-ce qu'on a de beau?
C'est sympa. Tu lui demandes de parler de la news pour laquelle tu n'as pas mis de lien pour qu'il sache de quoi tu parles.
Il n'y a pas de lien à mettre, c'est juste qu'il y a une info et qu'on n'a rien de...
Il y a déjà la première des infos, c'est qu'il va y avoir un patch normalement sur Street Fighter 3 Online Edition qui sera la bienvenue, puisque de toute façon, elle devrait corriger des choses que les joueurs demandent depuis un bon bout de temps. Il est en cours de validation chez Microsoft. Attendons de voir quand est-ce que les dates seront annoncées, sachant que vous êtes bien placé, ami internaute, pour savoir que une fois que c'est dans les mains de Microsoft ou de Sony d'ailleurs, parce que il arrive que Sony réagisse un petit peu de la même façon, on sait quand ça arrive, on sait pas forcément quand c'est validé. Ça dépend un petit peu du temps qu'ils ont à allouer à ce genre de choses.
Quand c'est validé.
Ouais.
Surtout qu'ils sont un peu plus longs ces derniers temps. Il y avait autre chose sur le feu.
On se demande quoi.
oui, là en ce moment, on se demande quoi. En tout cas, il y a une mage également de prévue, mais là cette fois qui est datée, parce que elle est prévue pour le 17 avril, sur Darkstalker, notamment des corrections de bugs, l'option Fad Request en arcade et en training. Ouais. Sur certaines informations de mise à jour, ce qui serait bien, c'est que les mises à jour qu'ils vont mettre sur 3.3, on n'a pas trop d'infos là-dessus. On aimerait bien voir des choses qui ont été pensées et mises en place sur Darkstalker. Ce serait pas mal qu'ils s'en inspirent, sachant qu'ils n'arrêtent pas de piller le travail l'un de l'autre. Enfin, c'est quand même une équipe commune à chaque fois qui met en place ce genre de choses. Ce serait quand même pas mal que ça se fasse.
Ouais, mais c'est des équipes externes.
Ils avaient donné les infos, ça fait un petit moment qu'ils avaient dit, ils avaient parlé notamment de mettre en place des mécanismes pour permettre de régler le lag de GGPO, ce genre de choses. Oui. Mais c'est vrai que là, c'est juste un tweet de Iron Galaxy qui nous a indiqué que le patch est en cours de validation chez Microsoft.
C'est pour ça qu'on en avait parlé il y a quelques temps, il y avait notamment l'affichage du ping, les choses comme
ouais,
ça.
Oui, tout à fait, oui.
Donc à voir. C'est vrai que le fight request là qu'il y a dans Darkstalkers, ce serait vraiment bienvenu dans First Strike, parce que
voilà.
C'est je comprends pas pourquoi c'est pas obligatoire dans tous les jeux de baston. Je veux dire, il y a rien de plus chiant que d'attendre dans un lobby, attendre de l'adversaire. Un jeu de baston, tu mets le mode training au moins.
Tu fais quelque chose, tu fais une action. Enfin, tu restes pas à attendre connement quoi.
Ouais, ça se faisait dans Street 4 très bien dans le mode arcade.
Complètement.
Et tu trouvais généralement du monde plus vite en jouant en mode arcade, parce que tu étais à la fois haute et en recherche de match.
Et puis tu faisais pas rien.
Mais dans Darkstalker, le pire, c'est que tu peux même pas laisser ta console tourner et aller te chercher un petit truc à boire. Parce que si y a un mec qui arrive, t'as même pas de signal sonore qui t'indique qu'il y a un mec qui arrive. Donc jusqu'à présent. Donc le patch, il est vraiment bienvenu, parce qu'il y a rien de plus chiant que d'attendre devant son écran à le fixer. Qu'il y ait quelqu'un qui s'affiche, si t'as pu pas assez vite, le mec qui risque de se barrer.
C'est une question un peu naïve, mais avec tous ces patchs qui sortent sur les jeux qui vendent en ligne, est-ce qu'au final ces jeux sont vraiment rentables? Est-ce qu'ils auraient pas une valeur qu'ils sortent des jeux finis de base?
Voilà, tu lances une lourde question et un long débat. Pour faire très très court, grosso modo, en fait, c'est difficile d'évaluer pour eux les coûts, parce que de toute façon, les coûts de développement se font au fur et à mesure sur des équipes qui font plusieurs choses à la fois. Donc, grosso modo, en général, sur ce genre de modification de programme, t'as 1, 2, 3 gars maximum qui bossent dessus et ils le font pas à temps plein. Ils font des actions en fait qui sont des routines de développement qui vont être faites sur un timing bien particulier où on va dire voilà, t'as ça à faire sur tant de temps, etc. Et là, c'est des choses qui sont complètement externalisées. Donc,
y a pas que ça comme coût. Il y a aussi le coût impliqué par la mise en disposition et la mise en ligne.
Ah, complètement.
À mon avis, je suis désolé, je te coupe la parole. À mon avis, tous les jeux de Capcom, y compris les rééditions, ils ont toujours bénéficié, ou pratiquement tous, bénéficié d'au moins un patch. Et donc, à mon avis, ils ont budgété le patch. Ils savent très bien qu'ils vont avoir besoin d'au moins un patch de correction de bug ou quoi que ce soit.
Après, c'est déjà dans leur
coût, de toute façon.
Là, je vais dire quelque chose qu'on n'a absolument pas vérifié. Et bon, je ne peux pas dire que ça se passe comme ça. Mais il y a des bruits de couloir qui diraient que de certains éditeurs comme Capcom ont leur petit papier vis-à-vis de Microsoft ou de Sony et ne paieraient pas forcément ou les mêmes sommes, ou voire pas du tout en fait à certains moments sur certains patchs parce qu'ils auraient voilà des contrats particuliers vis-à-vis des consoles. Donc bon, maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas et dans quelle mesure, mais en tout cas les actions de Capcom pencheraient à montrer que ce serait tout à fait possible. C'est clair que si tu es un tout petit éditeur et que tu te pointes chez Sony ou chez Microsoft, on va te dire ben voilà, nous on grâce à nous, tu vas pouvoir emmener tes jeux partout dans le monde, ça te coûtera tant, etc. C'est vrai que quand t'es Capcom ou d'autres structures du même acabit et qu'on dit voilà, moi je vais vous aider à vendre votre console parce que je vais sortir tel jeu chez vous, etc. en exclusivité ou ça, bon voilà, c'est une question de rapport de force après.
Donc c'est comme dans la vraie vie, plus t'as d'argent, moins tu payes, c'est ça ?
C'est exactement ouais, ça.
C'est un peu ça. Ouais.
Sinon, j'avais cru lire un
en
moment
de
billet. Juste, j'avais cru lire que le premier patch pour chez les deux, chez Capcom, et, enfin chez Sony et chez Microsoft, le premier patch pour un jeu qui est mis en ligne, c'était gratuit et que les autres étaient payants.
Il me semble qu'il y a quelque chose de cet acabit aussi. Ouais, c'est pareil, je peux pas le confirmer non plus.
D'accord. Maintenant, tu peux faire ta transition, Caldan.
Ouais, je disais, en parlant de gens qui ont de l'argent, on va parler d'un jeu fait par des Américains. Injustice, God Among Us, par Netherrealm Studio.
C'est injuste que tu dis.
Surtout qu'ils n'ont pas de l'argent, ils le fabriquent, c'est pas pareil.
Bon, quoi qu'il en soit, il y a la sortie du jeu la semaine prochaine, ou dans deux semaines, là, dans une dizaine de jours. Ouais. Et il y a également la version mobile, surtout iOS. Pour l'instant, la version Android n'est pas sortie. Donc la version iOS qui est disponible à partir d'aujourd'hui.
Et que j'ai téléchargé et que j'ai même joué.
Ah, tu vas pouvoir nous en parler, sachant qu'il y a une vidéo sur IGN, mais c'est vrai que avec tes mots, ce sera certainement plus long et moins clair.
Ah, mais je vais me faire un malin plaisir d'embrouiller tout le monde. En fait, ce qu'il faut voir, donc l'application elle-même, le jeu est gratuit. Par contre, il y a un système de micro-paiement à l'intérieur du jeu. Donc, tu as un système de monnaie virtuelle que tu peux utiliser pour acheter des personnages, pour acheter des compétences, ce genre de choses. Et effectivement, tu peux acheter de la monnaie virtuelle. Quand tu commences le jeu, tu n'as pas tous les persos de débloquer, hein, tu n'en as que 3. Sachant que j'ai commencé, je ne sais pas si c'est pareil avec tout le monde, parce que ça a l'air d'être un système de deck. Donc moi, à l'origine, j'ai eu droit à Lex Luthor, Nightwing et Harley Quinn. Et j'ai débloqué assez vite Catwoman. Donc au niveau roster, je suis à peu près content.
Étant donné les persos qui correspondent à ta personnalité.
Voilà, il manque juste Wonder Woman pour me faire plaisir, mais ce n'est pas bien grave. Excusez-moi. C'est une mort en direct. Je suffoque complètement. Donc voilà. Donc le jeu, c'est. J'ai l'impression qu'on peut y jouer que tout seul. Hein. J'ai pas l'impression qu'on puisse y jouer à deux. J'ai pas vu de menu pour faire des combats à deux joueurs. Le système de jeu, donc comme je disais, on a un nombre de persos limité. En jouant, on débloque de l'argent ou en l'achetant. Et avec cet argent, on peut récupérer d'autres personnages et d'autres cartes, parce qu'en fait, c'est présenté sous des cartes et des boosters. Comment ça se passe en fait? J'ai commencé à jouer tout en solo. A priori, il y a plusieurs séquences de combat que tu enchaînes, que tu débloques avec une progression qui monte. Donc tu fais plein de persos, t'enchaînes pas de combats. Sachant que les combats se font en 3 contre 3. Comme un KOF 11, où on intervertit de personnages au milieu du combat. Donc en fait, tu choisis ton personnage et tu choisis tes personnages, tu joues dans le jeu, et pendant le match, tu peux changer de personnage à peu près quand tu veux. Après, les personnages ont des niveaux et il y a un système de compétences, enfin d'XP plutôt, d'expérience. Donc quand tu gagnes des matchs, tu gagnes de l'expérience qui font monter en niveau tes personnages, qui augmentent les dégâts ou débloquent des trucs en plus. Après, pour parler du système de jeu en lui-même, j'ai envie de te dire que c'est un peu comme un jeu de boxe, entre guillemets. Donc, c'est pas du tout comme dans Street 4 ou dans KOF, où on avait des sticks virtuels, mais c'est un système de jeu complètement tactile et assez basique. Donc, grosso modo, tu appuies sur tu tapotes l'écran pour enchaîner des petits coups, tu fais glisser vers la droite ou vers la gauche pour faire un coup fort, sachant que les personnages se déplacent automatiquement et se mettent directement au corps à corps. Quand tu fais plusieurs petits coups à un moment, tu as un quick time, on va dire, qui apparaît. Donc, il te demande de glisser ton doigt vers une certaine direction pour finir ton combo avec un coup fort qui met l'adversaire à terre. Et à côté de ça, tu as aussi une jauge de coups ex et de super coups qui se remplit. Et quand elle est pleine, tu peux appuyer sur un bouton pour lancer la super attaque, sachant que c'est pas forcément une attaque qui fait des dégâts. Hein. Par exemple, avec Nightwing, quand tu fais ce coup-là, en fait, ça te permet de voler la jauge de super de ton adversaire. Et voilà. Donc, j'ai pas encore très bien vu si on pouvait faire beaucoup d'interactions. J'ai pas encore vu si on pouvait interrompre un combo pour faire venir un personnage et continuer le combo. Je suis pas sûr qu'on puisse. Pour garder, j'ai oublié de le dire, il faut appuyer avec deux doigts sur l'écran. Donc voilà, donc c'est un petit peu hein, j'attaque, je protège, j'attaque, j'attends, je mets un super coup, regardons s'il est paru ou pas. Donc c'est pour ça que je dis que ça me fait penser un peu plus à un jeu de boxe qu'autre chose. Dans la mise en forme, c'est en 3D complètement. Tous les personnages sont modélisés, les décors sont modélisés et le jeu est quand même assez beau. J'ai un iPhone 4 qui n'est pas officiellement supporté, donc il y a un petit message d'erreur qui me dit au début, attention, chez toi ça va peut-être ramer. Les temps de chargement sont un peu longs aussi, mais voilà. Donc, il faut que j'y joue un petit peu plus pour vous dire si c'est bien. Mais en tout cas, c'est fondamentalement différent de ce qu'on a pu voir sur d'autres jeux de combat sur portable.
Donc, il y a un vrai travail.
Ouais. Et est-ce que tu as vu qu'il y avait des achievements de cross-platform ?
Alors, le coup des achievements cross-platform, j'ai pas eu le temps de les voir.
En fait, tu as des achievements quand tu fais des actions, quand tu as des achievements dans le jeu mobile, tu peux débloquer des costumes pour la version console et inversement. Tu peux débloquer des trucs pour la version mobile en jouant à la version console.
Ouais, absolument. Bah. Maintenant, il n'y a plus qu'à acheter la version console.
Oh, voilà. Ou alors tu relis ton compte à celui de Tibbs, parce que Tibbs a pu jouer à la version console.
Ouais, en liant un compte commun. En fait, dans le jeu console, dans la version définitive du jeu console, que j'ai pu essayer aujourd'hui, il y a effectivement un compte. Alors, c'est un compte qui est. Je ne me rappelle plus du nom exact, mais c'est encore un compte supplémentaire. C'est pas le compte forcément Xbox, c'est pas le compte. C'est pas un compte Neverim. Enfin, c'est vraiment un truc par rapport au jeu, par rapport à Injustice. Et donc effectivement, alors le jeu n'étant pas officiellement sorti en Europe, la fonctionnalité n'était pas encore activée. Par contre, c'est effectivement pour lier les choses que tu pourrais faire dans telle ou telle version du jeu. Pour y avoir joué aujourd'hui, donc j'ai pu tester pas mal le mode solo. Le mode solo est très très bien fait. Comme l'était le dernier Mortal Kombat, c'est-à-dire qu'on a une vraie histoire, le scénario a l'air... Alors par contre, le doublage français, catastrophe. Vraiment.
On peut choisir les voix anglaises.
Ouais, on peut choisir les voix anglaises, mais alors les voix françaises, Joker, Batman, tout ça, non. Franchement, non.
Ils ne sont même pas les piocher dans les séries animées. Hein.
Ah non, la voix de Joker est affreuse, mais vraiment affreuse. Hein. C'est pas le doubleur qu'on a dans l'anime qui était bon, qui était d'ailleurs le doubleur qu'on retrouvait dans...
Retour
dans
vers le futur.
Non, mais qu'on retrouvait aussi dans la version Batman Arkham City.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Génial ce jeu.
Ouais, et là non, les doublages sont catastrophiques. Par contre, le scénario a l'air sympa, c'est très bien réalisé. Les cinématiques sont chouettes. Et puis, il y a une vraie intégration des combats que tu fais dans le mode histoire par rapport justement aux cinématiques et tout ça. Tout s'enchaîne de façon assez fluide.
Ouais, c'est sympa. Je trouve que c'était déjà le cas dans Mortal Kombat.
Ouais, dans Mortal Kombat, ouais. Ouais, c'est vraiment dans la continuité. Alors c'est plutôt joli. Par contre, la prise en main, alors le jeu était vraiment pensé pour être joué au pad parce que t'as pas mal de combinaisons de touches. Alors, toutes les touches sont utilisées. Hein. Les 8 boutons sont utilisés. Et au stick, t'as souvent des combinaisons de touches à faire pour faire des coups X ou les super ou faire un combo breaker. Enfin, quand le personnage est en train de te comboter, tu peux le casser son combo via l'utilisation d'une touche. D'une combinaison de touches et ça bouffe de la jauge. Enfin, il y a pas mal de choses à faire.
Si les 8 boutons sont utilisés, du coup, Tokido pourra pas jouer à ce jeu, donc c'est ça.
Bah, c'est ça. Enfin, ou alors, il y aura des actions silencieuses et ça va être du vrai mind game. ce qui fait qu'il y a pas mal de combinaisons qui sont à faire et quoi qu'il arrive, en fonction de comment vous configurez votre stick, il y aura toujours des combinaisons plus ou moins improbables hein, avec le bouton sous l'index droit et l'autre sous le pouce ou des boutons complètement à l'opposé qu'il va falloir activer ensemble. Bon, ça reste faisable, hein, c'est juste une, je pense, une une prise en main, mais c'est quand même assez, assez particulier au départ.
Bah, à l'instar des Link, c'est ce type de difficulté rajoutée dont je vois pas l'intérêt, en fait. C'est, en termes de gameplay, des fois, les mecs, ils veulent faire des trucs un petit peu
c'est,
originaux.
C'est pas de la difficulté, c'est une erreur d'ergonomie, quoi.
C'est juste, ouais, c'est juste ergonomiquement
parlant. Et oui, justement, je trouve que c'est pas le mieux.
Après, c'est pas un jeu d'arcade au sens premier du terme. C'est-à-dire pour moi, un jeu qui est sorti en arcade, donc il peut très bien avoir été développé avec une manette en tête, en se disant que voilà, le contrôleur par défaut, c'est la manette. Ça s'est vu aussi déjà sur Mortal Kombat versus DC Universe, et ça s'est vu aussi dans un jeu comme Dragon Ball Z 3 Budokai, où effectivement, en théorie, tu pourrais jouer au stick parce que les touches de gâchette servent uniquement à faire des raccourcis de boutons, mais en pratique, ces raccourcis ne sont vraiment pas pratiques, pas commodes à faire manuellement, donc tu joues avec la manette.
De toute façon, j'ai joué au stick par confort, parce que c'est vraiment une habitude que j'ai, mais vu les manips du jeu, il n'y a vraiment rien de complexe. On est dans le Mortal Kombat pur, hein, au niveau des manips de coups, et puis même les combos sont relativement courts. Alors, j'ai pas testé suffisamment le jeu pour faire des gros combos, mais dans ceux de base, en tout cas, il n'y a pas besoin de grosses manips, de gros enchaînements, donc ça reste parfaitement jouable, je pense, au pad, si on essaye.
Ils sont plus ou moins automatisés, les combos, ou faut vraiment...
Non, bah c'est des combinaisons de touches. Alors, j'ai l'impression que c'est comme le souci, moi, que j'avais avec Mortal Kombat, et c'est pourquoi j'ai pas joué beaucoup plus au jeu, c'est que dans ce jeu-là, j'ai l'impression qu'aussi qu'il n'y a pas vraiment de hit confirme. En gros, tu lances ton combo jusqu'au bout. Alors, de façon safe ou pas, tu dois pouvoir après continuer en fonction de si ça touche ou si c'est en garde. Mais tu peux pas faire genre un light, un ou deux light, voir si ça touche et continuer ton combo derrière. Ça marche pas. Cette notion de hit confirme est assez c'est particulière. Par contre, il y a bien des cross-up. Là, du coup, la garde est en arrière, donc il y a bien des cross-up. Les interactions avec le décor, faut en fonction des personnages et tout ça. Et donc, pour rappel, au niveau des touches et tout ça, t'as 4 boutons. T'as petit, moyen, fort, plus le dernier bouton qui est spécifique à ton personnage. Donc, avec Batman, par exemple, t'appelles des chauves-souris mécaniques que tu peux balancer. Avec Emma Frost, là, tu peux.
Il n'y a pas d'Emma Frost.
C'est pas Emma Frost, c'est dans Marvel.
Oui.
Comment ça s'appelle Frost? Quelque chose dans DC.
Oui, celle dont on a parlé il y a pas longtemps. De nouveau.
Oui, voilà, on a parlé. Bah, elle, en fait, elle charge sa barre de glace pour pouvoir faire plus de dégâts derrière. Enfin, t'as vraiment, les personnages sont assez particuliers à ce niveau-là, c'est assez chouette. Chacun a sa petite spécificité, et puis les interactions dans le décor varient en fonction des persos, tout ça. Enfin, c'est agréable, en tout cas, à jouer. Et par contre, le mode online, c'est pareil, je peux pas vous en dire plus, puisque le jeu n'était pas sorti en Europe, je n'avais pas accès au serveur.
Bon, moi, il y a une petite remarque que je ferais bien aux éditeurs quand même. Donc, il y a de plus en plus de jeux qui sortent sur plusieurs plateformes à la fois. Donc, là, quand j'entends plusieurs plateformes à la fois, c'est plusieurs plateformes que les gens peuvent avoir à la fois. Donc, les téléphones dont tu parlais tout à l'heure, Wellcook, et la version classique console. Les éditeurs aujourd'hui de films te sortent des combos Blu-ray, DVD. Ce serait pas mal qu'ils commencent à penser des trucs comme ça pour les gens qui ont vraiment envie de pouvoir jouer sur plusieurs plateformes. Tu as quand même pas mal de supports différents. Et on devrait pouvoir acheter un jeu en fait qu'on met sur plusieurs plateformes. Amis éditeurs, si vous nous écoutez, je vous invite à y réfléchir.
Ça se fait un petit peu sur Vita.
Ouais, et ça s'est fait notamment avec aussi Portal 2.
Oui, tout à fait.
Sur PS3.
Sur PS3, ouais. Tu débloquais la version PC.
La version PC, ouais.
En l'achetant sur PS3, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je l'ai acheté sur PS3, j'y jouais sur PC.
Voilà, continuons et comptons ce genre de choses. Je pense que et les éditeurs et les joueurs seront gagnants.
Ouais, je suis pas sûr que les éditeurs vont suivre parce que chaque fois, t'as le problème de la gestion des droits, des royalties, qui devient super compliqué quand tu fais ce genre de choses. Et à moins d'accord spécifique à un éditeur par rapport au fabricant de la console, c'est vachement compliqué.
Non, attends, tu peux pas me dire que tu peux pas faire un jeu qui sorte à la fois sur iPhone, par exemple, et sur...
Oui, oui, c'est possible. Je vais te couper la parole, Thème d'Égité. C'est possible, d'ailleurs, ça se fait sur PC, sur un jeu PC. Dès que tu achètes un jeu PC indé ou n'importe quoi, maintenant, c'est très régulier, une fois sur trois, quand tu achètes le jeu, tu achètes toutes les versions.
Bon, bah voilà.
Tu achètes un jeu sur PC, tu achètes un... Mais c'est souvent les jeux indés, parce qu'ils ont besoin de manger à tous les râteliers, donc ils font des versions Mac, ils font des fois des versions Linux, carrément. Et quand tu t'achètes ton jeu, bah, t'as une clé Steam, t'as un lien de téléchargement, t'as un lien Mac, t'as un truc, et t'as une application, si l'application est dispo.
Bah, donc il faut continuer dans ce sens-là. Voilà.
Et le premier, Le premier, c'était Blizzard avec StarCraft, Diablo, Warcraft, qui étaient disponibles en multiplateforme d'office.
Oui. Dès le début.
Ouais, sur Mac et PC, tu pouvais, tu sors ton Diablo là, ton Diablo 2 que t'as acheté à l'époque, tu le mets dans un Mac ou dans un PC, ça marche.
Ah, je savais même pas. Bah, déjà, tu m'as appris un truc.
TMDJC réinvente la roue.
Ah bah ouais. Non, je réinvente pas la roue, là, je viens de la découvrir.
Les problèmes de droit pour les jeux, c'est super compliqué. Mais en parlant de droit, on va parler de Microsoft qui ont réglé un petit problème juridique. Mm-hmm.
Qui n'intéresse personne.
Qui n'intéresse personne. C'est Killer Instinct.
C'est bon, vous avez Killer Instinct.
De la série Fox qui portait le même nom, et comme la Fox avait les droits, Microsoft était bloqué. A priori, le problème est résolu, donc on pourrait peut-être un jour voir un nouveau Killer Instinct ou un remake ou une réédition se profiler.
C'est vraiment pour le principe, hein, parce que Killer Instinct, on y a tous renoncé, je crois. Mais complètement, hein.
Attends, il y a encore une vidéo, y a des vidéos de combo hein, qui sortent hein, régulièrement.
Tous, non. Ouais, y a, on a quand même pas mal d'internautes hein, qui attendent avec impatience une éventuelle nouvel épisode autour de cette licence.
Ouais, mais on sait que chez Rare, il n'y a plus personne qui sait faire un jeu de combat.
Bah oui, nous on le sait, mais c'est pas pour autant que les gens n'attendent pas. Bon, en même temps, il n'y avait plus personne qui savait coder des jeux de combat chez Capcom, ils ont été cherchés ailleurs.
Hein. Ouais, et puis après, ils ont essayé de les faire eux-mêmes. Et c'est dans Street Fighter Cross Tekken.
Voilà.
Bon. Et c'est vrai que les bons jeux, ça se fait rare.
Oui.
Les bons jeux, mais heureusement, il y a des licences pour attraper le coup.
Il y en a encore. Non, mais attends, on n'a pas parlé de Skullgirls. Avant de parler de licences et de Namco, on va parler de Skullgirls, bon, qui est reparti en développement, du coup.
Est-ce que le dans le fichier, je ne le vois pas. Ah oui, on l'a
zappé. Au-dessus, en fait. Oui, j'ai sauté une ligne.
Ah, non, parce il a voulu faire un enchaînement de la mort qui tue, mais ça, si tu commences à exprimer ce que... Enfin, tu donnes les secrets, l'internaute se perd complètement.
Voilà, l'internaute n'a pas notre petite liste et on ne va pas lui donner parce que sinon c'est de la triche, il ne va plus nous écouter, il va juste lire la liste.
L'internaute a le droit de savoir que ce n'est pas moi qui me trompe, c'est toi.
Voilà, c'est moi. Mais oui, tu coupes la parole, comme quelqu'un l'a évoqué en début de podcast. Et donc, je voulais vous parler de Skullgirls qui est reparti en développement et on a eu notamment des avancées, hein, forcément, puisqu'il essaie d'être transparent. On a notamment un petit fichier Google Doc que Mike Z a mis en ligne qui donne en fait, c'est une to-do list sur tout ce qui est équilibrage du jeu, donc tout ce qui est prévu, tous les bugs qu'il va résoudre. Donc, on voit tout ce qui est fait et tout ce qu'il y a à faire. Et on a aussi le détail des contributions qui a été donnée donc sur la page Facebook et sur la page du Kickstarter par pays.
Pas du Kickstarter, mais on s'est compris, oui.
Indiegogo,
ouais, effectivement.
Donc qui a été le plus grand contributeur, dis-nous.
Les États-Unis,
avec très très loin devant.
$508,000. En deuxième, on a le Japon avec $92,000, puis le Canada. $92,000 le Japon.
Ce qui est quand même pas mal. Hein, pour, moi, je ne m'attendais pas à ce que les Japonais participent autant, hein, honnêtement.
Ce qui est énorme. Ensuite, on a des pays Canada, Royaume-Uni, Australie, Brésil, Allemagne, United Arab Emirates.
Là, c'est un seul donateur.
Et la France, ensuite, avec. On n'a pas le détail du nombre de donateurs, par contre, assez dommage.
France, on est 12.
France, on a $7,000 de données.
Ah, 13 alors.
En tout cas, c'est marrant, le jeu est populaire au Japon, mais il est surtout très populaire dans les pays anglo-saxons, en fait.
Mmh. Ouais.
C'est assez étonnant.
Peut-être à cause des mélanges et des traductions.
Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas,
la traduction française était vraiment excellentissime.
C'est pour ça que je parle de mélange.
Ouais. Bon, en tout cas, le développement continue. On a le stage du casino qui avait déjà été présenté, qui est terminé ou presque. Il n'y a plus qu'à rajouter les personnages et à faire un peu de finition. Et le vote qui est toujours en cours. Donc là, il y a certains personnages qui ont été éliminés. Il me semble qu'il reste une dizaine de
personnes. 16.
16 oui. Ah oui, c'est les top 16. Ouais. On n'a pas le détail par contre de l'ordre puisque c'est donné par ordre alphabétique.
Mais tant mieux, parce que le but du jeu, c'est que ça influence pas. Les gens peuvent vraiment voter comme ils ont envie et puis pas se dire ah mais merde, du coup, puis revoter pour un autre. Enfin voilà, mais c'est bien, je trouve.
Ok.
Je vais revoir. Les persos dont on se doutait qu'ils arriveraient dans le top 16 sont bien dans le top 16.
Oui.
Un peu dévêtus. Ils sont là, pas de problème.
Minette, tous les persos qui sont poussés un peu partout. Et Panzerfaust y est toujours. Tant mieux.
Voilà.
Alors, Namco Bandai, Wellcook, tu nous en parlais tout à l'heure, donc je te redonne la parole.
En fait, je viens d'avoir un pop-up sur mon iPhone à propos d'injustice qui me dit l'énergie de votre équipe est pleine, retournez combattre.
Ben retourne-y.
Il est magique ce jeu, hein. C'est de l'incitation à la consommation, c'est un scandale.
Ah donc en fait tu peux pas jouer autant que tu veux.
Je sais pas ce que ça veut dire.
Bah, comme souvent dans les free-to-play sur console et tablette, en fait t'es souvent jeu, limité, tu peux pas jouer toute la journée comme un bourrin et dominer les charts.
Pas, je ne sais pas. Donc Namco Bandai qui en ce moment est très actif sur les jeux plus ou moins intéressants. On peut dire ça comme ça. Donc, il y avait un jeu de combat qui s'appelait Project G, où on nous avait dit, regardez, ce sera un crossover, il y aura Dragon Ball, One Piece et Toriko dedans. Toriko, yes. C'est le nouveau petit succès du Jump.
C'est avec, génial, Toriko.
J'ai pas lu Toriko, c'est bien ?
C'est ouais, excellent.
C'est sympa. Excellent.
Au début, ça commence bizarre. Je t'avoue que les 5 ou 6 premiers chapitres, j'ai failli lâcher, mais après, ça part bien.
Ah, c'est un peu comme One Piece, c'est un peu dur d'accrocher au début, mais après ça déchire.
Ouais. C'est un peu dur parce qu'en fait, t'as l'impression. C'est un manga sur la bouffe, en fait.
Ouais, j'ai vu ça, en fait. J'avais lu le crossover qu'il y avait entre One Piece et Toriko qu'ils ont publié gentiment en France, on va savoir pourquoi, en bonus. Donc, j'essaierai alors Toriko. Et donc là, il y a aux surprises. Donc, déjà, le jeu a un nom. Il va s'appeler J-Stars Victory Versus. Ça, je trouve ça magique là, chez les Japonais. J'ai l'impression que dans leur plan com, ils prévoient toujours un nom de projet pour mettre au début de leur communication et puis après, ils ont prévu le vrai nom pour le dévoiler. Enfin, c'est magique. Donc, le jeu a un nom, le jeu a un trailer que vous pouvez aller voir sur les sites de jeux vidéo un peu plus généralistes que le nôtre. Et dans ce trailer, on découvre donc que, oh surprise, Naruto va rejoindre le cast du jeu.
C'est pas vrai.
Incroyable. Un quatrième personnage qui s'appelle l'orange et bleu.
C'est osé quand même, hein. C'est osé.
C'était couillu, hein, parce que franchement, Naruto n'a strictement rien à voir avec l'univers des autres séries, bien sûr. C'est pas un shonen, comme tout le monde le sait. Donc, ils n'ont jamais mis ce personnage-là dans d'autres jeux. On ne pouvait pas s'attendre à ça. Moi, je trouve que c'est vraiment courageux de leur part.
Après, il y a
une vraie prise de risque.
Il y a un problème fondamental dans ce genre de jeu, c'est qu'à chaque fois, tu te poses la question de comment il peut y avoir quelqu'un qui peut battre son Goku.
Ils vont mettre les persos de Okutonoken et puis ce sera bon comme dans Jump Ultimate Star.
Mais moi avec tout le respect que j'ai pour Ken, et vraiment j'en ai, parce que c'est quand même, on en parlait avec Will Cook l'autre jour, c'est quand même le boss, c'est Sangoku quand même, les gars.
Alors
Sangoku c'est quand même le seul mec qui est capable de t'exploser Goldorak, enfin je sais pas si tu te rends compte.
Non, il y a Saint Seiya aussi dans les
jeux. Non, mais oublie. Non, mais
arrête. J'imagine bien Sean avec sa chaîne nébulaire, là. Il va se prendre un Kamehameha, et puis voilà, on n'en parle plus.
Bon, ça suffit les digressions, là. D'ailleurs, bon, si vous aimez Dragon Ball, il y a des films en stop motion faits par un Taïwanais sur YouTube qui sont vachement bien.
Oui.
Allez les voir. Sinon, pour revenir à ça, apparemment, on nous promet en fait un jeu un peu dans la veine de Jump Superstar et Ultimate Stars. Donc, un espèce de super crossover festif où il y aurait plein de personnages de partout.
Alors, donc, si c'est le cas, ouais.
Ça pourrait être sympa. Après, niveau graphique, le jeu est loin d'être exceptionnel. Hein. Il est même moche, très moche. J'ai l'impression qu'ils reprennent plus ou moins le moteur du Dragon Ball qui était sorti il n'y a pas longtemps en arcade, un peu sur le modèle des Gundam.
On s'en fout, il y a Sangoku.
Mais il y a Son Goku qui se transforme en Super Saiyan dans le trailer, donc c'est bon, le jeu, ils vont le vendre.
Non, mais si c'est dans la même veine que Jump Ultimate Stars, déjà, il va falloir rajouter un paquet de monde au cast, ça c'est clair et net. Parce que sinon, là, ça ressemble plus ou moins à ce qu'on avait eu sur PS2, le crossover déjà entre...
D.O.N.
Voilà, c'est exactement ça. Il n'y a pas Toriko dedans, mais bon, c'est vrai que même graphiquement, c'était assez pauvre.
Mais D.O.N. c'était un peu un Smash Bros. Du pauvre, quoi. Donc, qui n'était pas très intéressant à jouer. Là, ils ont l'air de partir. Enfin, je sais pas. Ils ont l'air de partir sur une optique un peu plus différente, peut-être un peu plus Gundam dans l'esprit, dans la manière dont se placent les personnages et dont sont gérés les coups. Donc, à voir quand même.
À voir, ouais.
Et dans le trailer, évidemment, Son Goku lance un Kamehameha.
Oh, c'est étonnant.
Ils sont fous. Ils sont fous, ces Japonais.
Ils sont fous. Ils ont rien compris à Dragon Ball.
Il y a aussi, en parlant de manga, ils éditent un autre jeu de manga, il me semble, Namco Bandai.
Un autre jeu de manga.
Oui, un jeu basé sur un manga.
Basé sur un manga, une autre licence, Jojo, ouais. Bizarre Adventure. Ou. Je sais pas.
Pas Jam, Jojo, je sais plus.
J'en ai aucune idée, je dois te dire. Et je crois peut-être que ça a été dans Jump dans une époque, mais aujourd'hui, je crois pas que ce soit dans Jump.
Non, c'est pas dans Jump aujourd'hui.
Donc, bon, on s'en fout à la rigueur. Si de toute façon, s'il est dans le jump, il finira dans Six Stars Victory Versus. Donc, juste pour dire que si vous allez sur le forum de New Arcadia, parce que je ne sais pas d'où ils ont pioché les sources, il y a quand même plein d'infos de disponibles sur le système de jeu. Il y a un personnage qui se bat avec des bulles de savon et un arc-en-ciel qui a été dévoilé, qui s'appelle César Antonio Zeppelli.
Ah bah oui, effectivement, de la saison 1 ou 2.
Je ne sais pas du tout, j'ai lu que les trois premiers tomes du manga, donc je ne saurais pas beaucoup te dire, je ne le connais pas très bien. Donc voilà, le jeu va peut-être finir par sortir, et décidément, plus tu le vois, plus il est beau. Hein. Ou en tout cas, plus il a la patte graphique du manga.
Ouais,
du mangaka, plus que du manga.
Oui. Je trouve ça vraiment, vraiment très très bien fait. Ça va vraiment bien au-delà de ce qu'avait fait Capcom, et déjà je trouve que Capcom avait vraiment fait un effort vraiment pour garder le côté, enfin le design hein, de la bande dessinée, s'en était vraiment inspiré. Là c'est incroyable, il y a certains, enfin voilà, il y a des screenshots que tu vois, il y a des vidéos que tu vois, c'est juste génial.
Oui, mais surtout que c'est vachement compliqué de garder un rendu aussi fidèle sur des modèles 3D.
Ouais, par contre, c'est du CyberConnect, hein, donc ce sera certainement un jeu à la Naruto Ultimate
Storm. Mais des screenshots que je vois là, on a quand même les deux persos qui sont de profil et avec les barres de super, les barres de vie, tout ça. Enfin, ça fait vachement jeu de combat un contre un de façon normale. Après, évidemment, il y a des angles de caméra un peu plus exotiques sur les super attaques, j'imagine.
Un petit peu plus ambigu.
Voilà. Ah,
mais il faudra voir dans quelles conditions, si c'est jouable comme un jeu de combat, si on peut
avoir.
Voilà, en tout cas, c'est vrai que ça fait clairement un jeu de combat. Hein. Quand tu le vois comme ça, ça fait vraiment un jeu de combat 2D face à face et bourrez-vous la gueule, quoi.
Bah, donc, c'est comme ça que Namco l'avait présenté au départ. De toute façon, hein, il voulait. Il y a une volonté quand même.
Bah, on verra bien, mais
ça peut être une surprise.
Ouais, ça peut être un jeu sympa, parce que j'ai déjà vu des jeux de licence comme ça, super sympa, sorti un peu de nulle part, qui pas forcément de baston, mais sorti un peu de nulle part, adapté d'une licence connue ou super connue, et qui en réalité se sont avérés super sympas. Donc, pourquoi pas
hein. On verra à la sortie, dès qu'on aura des vidéos de gameplay, je pense qu'on pourra y voir plus clair.
Dès qu'on y aura joué.
Ouais, ou même dans une vidéo de gameplay, on verra tout de suite si c'est un jeu poudre aux yeux ou un jeu de combat digne de ce nom. Autre jeu sorti par Namco, mais complètement différent cette fois-ci, c'est Tekken Kart Tournament. On en parlait rapidement la dernière fois. C'est le jeu de cartes basé sur Tekken. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester ou pas.
Je ne l'ai pas téléchargé.
J'ai cherché sur l'Android Market, je ne l'ai pas trouvé.
En fait, il ne faut pas le chercher sur l'Android Market. Il faudrait que je mette le lien, parce qu'en cherchant par le nom, on ne trouve pas. Mais en cherchant sur le site, on peut trouver le lien.
D'accord.
Étant donné que j'y joue donc depuis quelques jours de manière assez intense, j'ai pu bien le tester. Et alors le jeu est vachement bien. Donc déjà c'est pas mal. Il y a 8 persos ou 6 persos disponibles. Il y a Panda, Xiaoyu, Paul, Lao, Yoshimitsu, Nina et la dernière, comment elle s'appelle, la pouffe en blanc là.
La monégasque. Lily.
Voilà, c'est ça. Qui sont jouables, qui se jouent chacun différemment. Donc, c'est une bonne surprise. C'est que le jeu est assez solide hein, au niveau du système. Il y a trois niveaux de cartes. Donc, il y a vraiment des decks plus forts que d'autres. Hein. C'est pas toutes les cartes se valent à la Magic. Et le jeu est en free-to-play. Et le gros avantage du jeu, à mon sens, c'est plus le fait qu'il soit cross-platform. C'est-à-dire que si vous avez un iPhone, un ordinateur et une tablette Android, et ben vous pouvez jouer avec le même compte sur les trois plateformes.
Ah, ça, c'est bien,
sans
ça.
Aucun problème. Dans un navigateur sur PC ou avec l'application sur les tablettes.
Je viens de lancer le téléchargement sur mon iPhone. Il faut que tu nous envoies le lien pour la version Android. Après, ce genre de jeu sur multiplateforme, c'est pas nouveau. Hein. Il y en a déjà plein des jeux de cartes comme ça qui existent, qui sont multiplateformes et qui permettent d'interagir entre les différentes versions parce que tout est hébergé en ligne.
C'est pas
que. Et tu peux jouer en ligne avec tout le monde aussi. Ça, c'est surtout.
Oui, ça, c'est surtout ça aussi. Et graphiquement, il est magnifique le jeu. Ça ressemble à du Tekken version PlayStation 2.
Merde, il va pas tourner sur mon iOS, sur mon iPhone 4 alors.
Tekken Kart Tournament, je l'ai trouvé tout de suite là sur le l'Android Store.
Hein, ah ouais.
Il y en a qui font pas de faute d'orthographe quand ils tapent des mots.
J'ai juste tapé Tekken, c'est tout. Et je l'ai trouvé en premier lien.
Alors j'avais peut-être cherché un peu trop tôt aussi, hein, parce que c'est quand vous avez dit qu'il venait juste de sortir.
Mais apparemment, un gros succès parce qu'ils ont bloqué le online pendant tout le week-end, puisqu'ils ont été surchargés au niveau des serveurs. Ils avaient, rien que pour la journée de vendredi sortie officielle, ils avaient 200 000 nouveaux joueurs, en plus des bêta-testeurs. Et donc, ils n'ont pas pu tenir la charge, ça buguait, il y avait des problèmes, etc. Mais le jeu est pas mal, et surtout, j'ai l'impression que le fait de payer à moins de sortir des fortunes ne donne pas forcément un avantage direct. C'est juste un petit accélérateur, mais on peut tout à fait gagner de l'argent et développer son deck sans payer.
Bonne nouvelle.
Je viens de le lancer, le téléchargement sur Android aussi. C'est bon, je suis pareil.
C'est bon, la connexion de Wildcook va être pourrie.
En plus, il y a Xiaoyu. Il y a Xiaoyu dans le jeu, je vais y jouer.
Et maintenant, on va vous parler d'un autre jeu que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Kohime Musou.
Musou, d'ailleurs, on dit en anglais, en japonais.
Musou. Alors, qui c'est qui veut parler de ce jeu? Qui c'est qui connaît ce jeu déjà ici?
Qui c'est qui? Eh ben, qui c'est qui? Je ne connaissais pas le jeu avant qu'on en parle dans le podcast. J'étais jeté un œil aux images du jeu. Alors, ça reprend l'histoire des Trois Royaumes, la fameuse histoire des Trois Royaumes en Chine, tout ça. Enfin, il y a plein de jeux qui s'en inspirent. Sauf que là, c'est là que les Japonais sont très très forts. Ils ont fait encore quelque chose d'absolument original. C'est vrai qu'ils ont remplacé tous les personnages par leur équivalent, mais féminin. Il y a que des petites minettes
il y en a pas une seule qui a une armure,
voilà. Je peux signaler. Et donc si vous cherchez le jeu sur Google Images, vous allez tomber sur donc c'est un doujin à la base et ça se voit. ça se voit puisque voilà, comme le dit Wildcook, il y a que des petites filles en jupe. Et donc le côté les Trois Royaumes, je sais pas trop.
C'est dans l'histoire.
Tu le vois dans les armes des personnages.
Ça doit être les armes, ouais, voilà, les armes des personnages, mais c'est tout. Alors, juste pourquoi on parle de jeu, puisque il a été annoncé que le jeu ne sortirait pas sur console, mais uniquement sur PC, puisque.
Tu as oublié de dire qu'il était sorti en arcade quand même déjà.
Il est sorti en arcade. Et il ne sera adapté que sur PC, puisque il faut quand même une machine surpuissante pour afficher toutes ces jupettes, tous ces bouts de poitrine.
J'aime bien quand mon gars prend son souffle, c'est...
j'en peux plus.
Ces bouts de poitrine.
J'ai chaud.
Donc il vous faudra un SSD, il vous faudra un corps de duo avec 400 gigas de mémoire vive et tout ça.
Mon dieu, on voit une culotte.
Minimum.
Ah oui, parce que les consoles sont trop bridées pour sortir ce genre de...
Les consoles japonaises trop bridées, attention.
Trop bridées, tout à fait. Et en parlant de choses bridées, on va vous parler de Juan Dozy Wong.
Oh, ami de l'humour, bonsoir.
Juan Dozy Wong, c'est le coffre chinois à chaque fois on dit ça.
Ouais, il y a un trailer, le personnage dont on avait parlé il n'y a pas longtemps, qui ressemble beaucoup dans le design à Chris et à ce genre de personnage. Donc il y a un trailer qui est disponible, donc on peut le voir en train de bouger et en train de combattre. Et en fait, finalement, il fait, en termes de jeu, il ne fait pas du tout penser à une Jill Valentine ou à un Chris Redfield tel qu'on peut les voir dans
Marvel.
Marvel vs Capcom, excusez-moi, ça se voit que j'ai beaucoup joué à ce jeu. Donc voilà, donc en fait, si on y regarde de très près, on peut deviner des coups qui viennent un petit peu de Abel, d'autres qui viennent un petit peu de Leona. Mais au final, quand on le voit le tourner, la manière dont il bouge et il combat de manière générale, c'est un perso par rapport au reste du casque qui a quand même l'air assez original, ce qui m'a beaucoup surpris.
Bah, je suis en train de voir la vidéo. Ils ont l'habitude de développer leur truc. Ils peuvent se permettre en fait un petit peu plus d'originalité. Je pense qu'avec les premiers personnages, ils ont un prix.
Il y avait Tips qui allait dire un commentaire.
Oui, je suis en train de regarder la vidéo et je vois les coups spéciaux du perso qui donne des coups de flingue, qui saute avec en tirant des lance-roquettes. Ça me fait quand même vachement penser à Chris
Marvel. À Gilles aussi. Hein.
Lance-roquettes, oui. il le fait qu'en sautant. Et puis, ses coups, mine de rien, il y a des coups avec des armes à feu, mais qui ont une portée assez limitée. Donc, il y en a quelques-uns qui restent des coups au corps à corps. Et après, c'est sûr, si tu vas chercher sa super ou une mitraille ennemie, elle fait penser à Super de Megaman dans Tatsunoko versus Capcom, par exemple. Mais voilà, tu peux toujours aller chercher, mais globalement, il a quand même l'air dans l'ensemble d'être un petit peu plus original que le reste du cast. Alors, je dis pas qu'ils pompent rien.
Ah oui, que le reste du cast, oui, de jeu là, oui.
Ils pompent plein de trucs, mais par rapport au reste du cast, ça a l'air d'être un peu plus, on va dire, varié ou riche ou discret. Discret, ouais, discret.
Il y a certains personnages, t'as l'impression que le deuxième prénom, c'est plagiat quand même. Hein.
Oui, mais de toute façon, on n'y jouera jamais, voilà.
Tu vois, attends,
si le chef finira
c'est
par avoir.
Ah, j'ai vu sur les forums Shoryuken, il y a un chinois en ce moment qui traîne. Il faut lui parler après minuit heure US parce qu'il parle à des Américains. Et en fait, il peut te répondre aux questions chinoises que tu lui poses. Et en fait, quand tu t'inscris, tu as des questions en chinois sur le site. Et si tu lui poses les questions, le mec il te donne les bonnes réponses et comme ça, il t'aide à t'inscrire et à obtenir ton code d'accès.
Mais je crois que le chef est allé aussi loin que ça. Hein.
Il est allé aussi loin que ça, il a pu répondre. Et en fait, tu peux faire un essai par jour pour avoir un code d'activation.
D'accord.
C'est pour ça qu'il est bloqué.
Ah, d'accord. Ok, bah, c'est pour ça que le chef n'y arrive pas. C'est pas parce qu'il est bête.
Bah, en parlant de lui, on va parler de lui dans la prochaine rubrique, puisqu'on a fini avec l'actualité. On va parler de lui dans le journal du Hard.
Qu'est-ce qu'il a fait, le chef, dans le journal du Hard?
Qu'est-ce qu'il a fait? On voit que toi, tu vas tous les jours sur le site pour voir s'il y a des news.
J'ai pas le temps de regarder.
J'ai vu la vidéo. Alors.
Je n'ai vu que l'intro de la vidéo. Je tiens à dire au chef qu'il ferait bien de prendre un petit peu des cours de théâtre parce que quand il lit, c'est quand même un peu trop mécanique.
Ouais, mais ça va. Enfin, j'ai regardé le test en entier.
Parle globalement. De quoi?
Mais il parle du stick Razer, du prototype, en tout cas du stick Razer. Le prototype qui est vieux de un an maintenant. Et il le teste en long, en large, en travers. Et il revient un petit peu sur les qualités, les bonnes idées et les défauts.
Ça veut dire quoi tester un stick en long, en large et en travers? Parce que là, j'ai une image en tête.
Bah, tu le testes d'un côté, après tu le testes de l'autre côté, mais c'est moins pratique parce que le stick est de l'autre côté, donc tu es habitué. Et en travers, par contre.
Garde cette image pour toi et on y revient. Non, alors, je vous invite à regarder le test. Hein, c'est visuel, donc c'est beaucoup, ça vous parlera beaucoup plus. Il y a quelques bonnes idées qui étaient présentes dans les anciens protos qui ont été retirés, notamment le fait de pouvoir ranger des boutons à l'intérieur du stick et tout ça. Après, au niveau de la finition, il y a quand même pas mal de soucis de finition, notamment sur le système révolutionnaire d'ouverture et de fermeture qui est plutôt bancal, puisque ça plutôt du mal à se fermer, enfin ça faut s'y reprendre à plusieurs fois pour bien le fermer et du coup le stick est plutôt mal fermé, enfin il y a des bouts de plastique qui remontent de chaque côté. Après il faut bien se dire que ça reste un proto qui est vieux d'un an, donc il y a largement matière à évoluer.
C'est dire si on est pris au sérieux, je sais pas, gros point. Hein.
Ouais. Après je sais pas si beaucoup de gens ont des protos plus récents. À voir. Le truc à retenir, c'est que bah dans l'idée, ça ressemble vraiment beaucoup à un TE, puisque de toute façon c'est équipé avec un stick sans noix et des boutons sans noix. Et mis à part le système d'ouverture et de fermeture, le form factor du stick est très très similaire à ce qu'on avait avec un TES, à savoir exactement quasiment la même forme sans les côtés là à rond. Enfin, qui ressortent bien. Là, on est. La vraie bonne idée, c'est le câble USB détachable qu'on range effectivement à l'intérieur du stick. Donc, ça évite d'avoir un câble et une trappe qui peut s'abîmer ou des choses comme ça. Là, en fait, ils ont remplacé le rangement des boutons à l'intérieur du stick par le rangement d'une deuxième boule ou d'une poire pour ton stick.
Il y avait déjà le rangement de la poire. En fait, et t'avais en plus le rangement des boutons, et le rangement des boutons a été viré. Et la remarque de Nathan, que je trouve parfaitement justifiée, est que en général, le truc que tu casses le plus vite, c'est quand même les boutons et pas ta poire. Donc, moi je suis assez d'accord avec lui. J'aurais trouvé plus judicieux, quitte à retirer quelque chose pour faire de l'espace à l'intérieur, si ça sert à quelque chose, de plutôt laisser la possibilité aux joueurs de laisser plusieurs boutons que des poires.
Absolument.
Et est-ce qu'ils ont mis un emplacement pour ranger un panel pour si jamais tu veux jouer à Street Fighter et derrière un Mortal Kombat?
Non, c'est pas assez profond pour ça.
C'est ballot. Bon, mais sinon, en fait, la seule révolution du stick par rapport à un TE, c'est juste qu'il s'ouvre plus facilement et que
s'ouvre très facilement,
le panel se tient tout seul.
Voilà.
Il ne traîne pas à droite ou à gauche avec les câbles qui s'arrachent. Donc voilà, c'est tout.
Voilà.
Mais ça peut être effectivement pas mal si jamais toi tu as besoin de passer d'une config à une autre. Là on voit il y a des types de boutons maintenant plus ou moins différents. Si jamais tu veux changer l'artwork, c'est quand même beaucoup plus simple. Enfin voilà, il y a quelques bonnes idées quand même.
Il y a quelques bonnes idées, il y a quelques défauts qui peuvent être corrigés. Au final, ce qu'il faudra retenir, je pense, quand Razer sortira son produit terminé, c'est effectivement si ces bonnes idées sont conservées et si les défauts sont gommés, surtout le prix. Puisque pour se démarquer de la concurrence, et avec le peu de différence qu'il y a actuellement, en tout cas par rapport à la concurrence, ça va être le...
Et le marché du stick qui est en fin de vie hein, sur cette génération.
Voilà. combien ça va être vendu. Et puis, effectivement, bah, il faut qu'ils le sortent assez vite, puisque là, on arrive quand même sur la fin de vie des consoles. Enfin, des consoles actuelles, même si on continuera à jouer à nos jeux de combat.
Ça ils peuvent très bien vendre ce modèle de stick compatible avec les consoles nouvelle génération. Je ne m'inquiète pas pour eux. Hein. Mm-hmm. Une fois que le modèle existe, on sait que Matt Cass a quand même utilisé ces modèles sous plusieurs formes avant de changer complètement de gamme. Donc ça, c'est tout à fait possible.
D'accord, TMDJC, mais il va falloir attendre combien de temps pour avoir des jeux d'arcade ou de baston sur une nouvelle console?
Bon, on verra ça quand ça sortira, de toute façon.
C'est aussi pour ça
qu'on posera les questions quand ça sortira, on aura des prix USB dessus, on branchera des...
Non, mais s'ils gardent le planning
actuel... C'est pour ça qu'ils ne posent pas la question aujourd'hui et qu'ils le sortent sur les consoles de génération d'aujourd'hui. Oui. Sinon, ils attendraient et ils feraient autre chose.
Mais je suis ce que en train de dire, ils sortent un moment, à mon avis, où c'est le moment où il ne faudrait pas en sortir, c'est tout.
Bon, écoute, on verra bien.
Ouais.
Bon. De toute façon, on continuera à jouer à nos jeux de combat encore un petit moment hein, sur nos consoles actuelles. Donc,
D'ici qu'ils sortent des jeux intéressants sur une nouvelle console, c'est pas demain. En attendant, on va parler des consoles d'aujourd'hui et d'hier et des persos d'hier, surtout, puisque c'est ce que connaît le mieux TMTJC, étant donné qu'il est vieux.
Bon, pour une fois, c'est pas Wilco qui l'a dit.
Non, mais c'est dommage parce que j'aimais bien Kaldan et tu sais que les accidents peuvent vite arriver. Oui. Mais bon, oui, nous allons parler. Nous allons parler aujourd'hui de Dalsim parce qu'il y a Dals77 qui s'est fait chambrer, qui est un joueur de Dalsim et qui s'est fait chambrer parce qu'on lui a dit que son personnage devait être un éléphant à la base et qu'il avait des rapports conflictuels avec Balrog. Alors je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure. En fait, le personnage ne devait pas être un éléphant à la base. En fait, ça devait être le représentant d'un dieu, à savoir Ganesh, et pour être exact, sous sa forme Ganesha, qui est un personnage indien représentant donc un dieu qui est un éléphant avec un corps plus ou moins humanisé. Et cette version-là devait posséder 6 bras, donc au tout début de la vie de Dalsim. Effectivement, il n'était pas le personnage que l'on connaît aujourd'hui. Et puis pour la petite histoire, il s'appelait pas Dalsim d'ailleurs, parce qu'il s'appelait Naradatta de mémoire. Data qu'ils ont repris après pour donner le nom à son fils, parce que Dalsim a un fils avec la jeune Sally qui a 17 ans et voilà, donc Dalsim n'est pas du tout pédophile. Donc le personnage que l'on connaît aujourd'hui, avec les bras qui s'allongent, etc., en fait a été pensé par Akiman. Il l'a pensé comme ça, surtout par rapport à une histoire de gameplay. L'idée était de pouvoir gérer l'espace différemment des autres personnages. Donc c'est devenu cet Indien à cause de ça. Il y a fort à parier, ça je peux pas vous le confirmer à 100%, mais que ce personnage soit tiré d'un film. Sachant en fait qu'il existe un film, je suis en train de chercher le nom, va me revenir. Mais ce film-là où il y avait un Indien qui avait les membres qui s'allongeaient, Capcom n'a jamais dit en fait qu'ils avaient été chercher leur idée là-dedans. Mais il y a quand même énormément de similitudes avec Dalsim, donc ce serait pas du tout impossible que Capcom, Akiman, se soit inspiré de ce personnage pour créer le personnage que l'on connaît aujourd'hui. Le gameplay qu'on avait de Naradatta en fait au départ était un personnage qui était également lent, donc la lenteur était déjà posée là, et en fait le personnage se servait donc de ses 6 bras pour gérer l'espace, et il avait notamment des techniques de coups qui lui permettaient en fait de stopper les boules de feu, chose que Dalsim n'a pas gardé puisqu'en fait il a lui-même hérité de ses propres projectiles, ce qui semblait plus facile à gérer pour l'équipe de l'époque. Donc le personnage utilise le feu, et ce feu lui a été transmis notamment là encore par une divinité, donc on reste dans l'idée de la divinité. C'est Aguni, la divinité, qui est donc le dieu du feu, qui lui a donné ce fameux pouvoir de pouvoir envoyer ses Yoga Fire et autres Yoga Flame ou Yoga Blast ou toutes ces super attaques que l'on connaît depuis. Et si jamais en fait il paraît que Dalsim a des rapports délétères avec Balrog, alors quand on parle de Balrog on parle du boxeur, hein, on est d'accord, M. Bison dans la version japonaise, c'est tout simplement en fait parce que le boxeur
M. Bison dans la version occidentale.
dans la version occidentale.
Ah non, j'ai dit une bêtise.
Non, c'est pas le Rogue. Non,
je,
pas le
Rogue. C'est pas je retire, le... je retire.
Sinon, tu m'as mis tout d'un coup, j'ai mis que se passe-t-il ? Le personnage, en fait, a tué tout simplement un des éléphants, et on y revient, de Dalsim.
Il a donc, tué voilà, un animal sacré.
Il a tué d'un de ses coups spéciaux son éléphant qui s'appelle Kodal, qui est donc en fait Dalsim, effectivement très en colère contre notre boxeur américain. Mais a priori, il ne s'est jamais vengé, parce que Dalsim, malgré le fait qu'il participe régulièrement au street fighting, est un personnage plutôt pacifique. Voilà.
Est-ce qu'il a tué l'éléphant avec un headbutt ?
Non, il l'a tué avec son tongue punch, si jamais on doit être très clair.
Oh, c'est nul. Est-ce qu'il avait déjà le headbutt à l'époque ?
Non, il ne l'avait pas. Il est arrivé dans Super Street 2, ce coup-là.
Oh, c'est nul.
Et puis, pour la petite histoire, donc, du coup, le dieu éléphant, en fait, on le voit affiché donc, dans le stage de Dalsim, dans le stage de Street Fighter 2, en fond,
là, là où il y a les 6 éléphants.
Voilà, exactement.
Ok. Ok, bah, une chose de fait, tant que c'est... Qui est Dalsim maintenant ?
On en sait un petit peu plus.
Ouais, on va parler maintenant des tournois et des prochains événements. Donc on a, il n'y a rien de nouveau, il me semble. On a le Paris World Warrior, c'est le week-end prochain ou c'est celui d'après ?
C'est ce week-end.
C'est ce week-end, effectivement. C'est ce week-end Paris World Warrior à Villejuif, avec plein de lots intéressants à gagner. Si encore de la place pour s'inscrire, il me semble qu'il y en a quelques-unes encore. Ensuite, en fin de mois, on a le Stunfest.
Absolument. Avec la venue d'un nouveau japonais en la personne de Koko. C'est K-O-U-K-O-U. C'est un genre de KOF qui a gagné le dernier gros tournoi japonais. Non, j'ai oublié le nom, mais il y avait un gros tournoi japonais dernièrement et il l'a remporté. Et grâce à la grande participation de Ciné de Beer, ce joueur pourra être présent au Stunfest.
Oh là là, encore quelqu'un qui va rouler sur Flonel.
Tout le monde l'a pensé, mais personne ne l'a dit. Merci, Wattcook.
Donc, ensuite, on a le Republic of Fighters au Jix Festival à Paris Nord, donc du 3 au 5 mai, où il y a encore pas mal de places. Je pense que les gens sont un peu. Sont pas inscrits. C'est peut-être dû au fait qu'au niveau tarif, c'est pas très clair sur leur site. En sachant que si vous vous inscrivez, si vous prenez un pass global qui a 20€, vous pouvez participer à tous les tournois, en fait.
Ouais, mais je crois qu'il faut aussi payer l'accès au salon ou un truc comme ça. TMDJ, c'est pas ça.
Si tu prends le pass à 20€, tu n'as pas besoin de payer l'accès au salon. Ouais.
D'accord.
Voilà, comme ça c'est clair.
Bah tu vois, t'as compris.
Oui, bah parce que j'ai compris, parce que ça a été expliqué ensuite, je sais plus, c'est sur Twitter ou sur un forum ou je sais pas quoi, mais moi j'avais pas compris au début. Tu vas sur le site, tu comprends rien au tarif. Donc en tout cas, il y a différents tournois. Il y a un tournoi Super Street Fighter 4, Soul Calibur 5, Tekken Tag Tournament 2. Et il y a des cash prizes, il y a de la dotation. Il y a 600€ pour Street Fighter 4 et 300€ pour Soul Calibur et Tekken Tag Tournament 2.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal du tout. Ensuite, un peu plus tard dans le mois de mai, on a le tournoi Street Fighter 2 obligatoire où il faut aller. C'est le X-Mania.
Yep, il faut y aller.
Voilà, tout est dit.
On a déjà tout dit, donc on va pas en rajouter, mais il faut y aller, point. Tu te poses pas la question, tu aimes les jeux de combat, tu as envie d'en découvrir l'origine, tu vas au X-Mania.
Voilà. Après, quand tu reviens sur Paris la semaine d'après, tu as le tournoi Full Paris au Stade Charletti. C'est le 19 mai, sur une seule journée, tu as des tournois de plein de jeux différents.
Pas 5 jeux, ouais.
T'as 5 jeux différents, ils vont tout faire tenir en une journée. Bon courage les mecs, mais en tout cas on leur souhaite bonne chance. Et bon, il y a des lots à gagner, pareil. Des lots, des cash prizes, enfin comme d'hab. Ça a l'air d'être un beau tournoi. Et ensuite en juin, il y en a d'autres. Il y a quoi ? Il y a le...
Double KO, Summer Event par l'association Double KO à Rouen. Donc tournoi SF4, KOF 13, 3.3, UMVC3, 2X. Il y aura 300€ de lot par tournoi a priori, et puis pas mal de monde. Jules sera là, et puis des défis craqués, des choses. Les gens de Double KO sont très sympathiques, donc c'est Rouen, c'est une heure et demie de Paris en voiture, donc
tu leur envoies des fleurs parce que tu y seras, c'est ça?
Il y a des chances que j'y aille, mais c'est même pas sûr. Mais si je peux y aller, effectivement, j'irai. Et comme je vous dis, c'est à une heure et demie de Paris, grand maximum. Donc, n'hésitez pas.
On va essayer de ne pas hésiter.
Et enfin, dernier tournoi. Voilà, le tournoi qu'on aime, les Vaux Bordelais.
Donc, voilà, et on ne sait toujours pas si c'est sur 2 ou 3 jours. En tout cas, ça sera au moins le 27 et 28 juillet.
En juillet, ouais.
On ne sait pas encore quels sont les tournois.
On a des infos ou pas ? On n'a pas plus d'infos pour l'instant. Bon, c'est un peu tôt.
J'ai pas vu de communication. Attends, laisse-moi 30 secondes, tu regardes. Tac, tac.
Ah, il me semble que le double Chaos Summer Event a rajouté Persona 4 dans sa liste de tournois.
Non, il croit que le jeu va être sorti au moment où ils font le tournoi.
Bah, en juin, normalement, c'est jouable.
Et pendant que... Attends, il y a un topic qui a été mis à jour. Donc, bienvenue à tous et voici toute première information concernant les Vaux Bordelais 2013. Les news datent du 4 février, donc il n'y a rien de nouveau.
Merci, Walco.
Ah, si, okay. si. Vendredi, un trailer a été mis en ligne.
Ah, ben, bah, les news datent du 4 février, mais le reste, ça a été mis à jour. Bon, bah, super. Un trailer. Bon, bah, écoute, il y a un trailer en ligne, super.
Bah, quoi, attends, c'est vachement la mode de faire des trailers pour des tournois, alors qu'on n'a rien à en montrer.
Bon, bref. Si ça se trouve, ils vont faire comme l'année dernière, ils avaient fait...
Ah si, mais il y a plus bien d'infos, que tu dis qu'il n'y a pas d'infos, on sait qu'il y a Super Street 4 Arcade Edition, Street Fighter 3 Proton, Tekken Tag 2, Virtua Fighter 5, donc les tournois à 10€ pour Street 4, 5€ pour Street 3, 5€ pour Tekken Tag et 5€ pour Virtua Fighter 5, avec des cash prizes allant de 320€ pour les petits tournois à 640€ pour Street, avec 64 places de libre, pas de tournoi. Il y aura un cinquième jeu qui sera disponible si vous votez pour lui sur Facebook. Et il y aura aussi beaucoup de free play, dont Soul Calibur 5, Off 13, Persona 4 et UMVC.
Bon, bah voilà. Et on ne sait toujours pas si c'est sur 2 ou 3 jours.
Bah, ils mettent 27 et 28 juillet. Hein. Donc, a priori, c'est quand même 2 jours.
2 jours.
Ce serait très bien. Bon, très bien.
Ah, voilà. Bah, parfait. Eh bien, parfait. Et juste, Coco, le joueur de KOF, il a remporté l'Ichigeki, le tournoi japonais.
Et voilà, c'est quoi l'Ichigeki ?
Bah, l'Ichigeki, c'était un gros tournoi japonais qui a eu lieu dernièrement. Enfin, fin d'année dernière, quoi.
Ah ! Okay. Ah, c'était le tournoi sponsor... Ah non, c'est pas celui qui était sponsorisé par SNK ?
Ah, je sais pas. Ah si, c'était celui-là.
Ça. Si, c'est ça.
D'accord, c'est SNK, c'est le moment où on avait fait une news, depuis longtemps on n'avait pas fait de news.
Oui, bah voilà, c'est ça. Allez hop, vendu. Bon,
voilà. Ce toast-ci est terminé. On vous remercie de nous avoir écoutés.
Petite dédicace rapide à R Janvier et à Le Rebourg qui nous disaient sur Twitter qu'ils aimaient bien ce qu'on faisait. Alors je leur ai dit qu'on leur ferait des bisous. Donc des bisous.
Des gros bisous.
Tu leur as dit qu'ils étaient bizarres s'ils aimaient ce qu'on faisait ?
Ouais. Non, ils sont pas bizarres. Non,
j'ai dit merci.
Ah mince.
Pas faire les anniversaires non plus, on n'est pas au Club Dorothée là.
Eh bien justement, je voulais le proposer. Happy birthday to you.
Est-ce que tu as ta carte de membre Bagro Point ?
Voilà.
Fais gaffe, on va faire du halo à l'huile et tu seras sous le seau. Hein.
je chanterai sans ma barbe.
Mon Dieu, ce podcast est en train de partir en vrai.
Allez, pas de pitié pour les cartes de cercle. Bon.
On vous dit à la semaine prochaine.
Allez.
Bisous les gens.
Bisous, bisous à tous.
Bisous tout le monde, salut.
Bonne nuit.
bad drinks, it won't make success, comes from excess.